Moi un peu. En 1940, vous étiez.
Je suis, moi je suis rentrée à la base de sous-marine en août 42.
Ah, vous étiez avant, vous étiez où?
À la base de sous-marine.
Et avant 42?
Alors, avant, je travaillais dans une usine où faisait du bois. Faisait des caisses pour les bouts au le boulevard. À côté de Par des Soirs, on faisait à ce moment-là pour la lessive Saint-Marc.
Ouais. Ça n'a rien à voir avec les Allemands.
Ça. Oui.
Oui, mais comment
alors, je travaillais là-bas.
Oui.
Mais comme ma sœur aînée avait été envoyée par la préfecture, on l'avait envoyée travailler de force avec les Allemands. Voilà. Elle travaillait dans l'industrie. Elle travaillait dans une usine de capsules.
Ah.
Seulement les Espagnols, parce que ma sœur était née en Espagne, mes sœurs, et elles sont arrivées, on leur faisait la carte d'identité pour, à l'époque, c'était 5 ou 10 ans. Et quand elle a voulu renouveler sa carte d'identité, c'était en 40. Or, les étrangères, vous n'allez qu'aller faire les bonnes et aller travailler. Ils n'ont plus voulu renouveler la carte pour travailler dans l'industrie. Alors, on était bonne à tout faire et femme de ménage.
Elle s'est fait attraper.
Mais à elle, directement, à la préfecture, elle n'a pas cherché, elle n'a pas donné le choix. Elle dit, moi, demande du monde. À la base sous-marine, vous êtes au début. Alors, vous allez là-bas. Elle est obligée de partir si vous voulez travailler.
Oui.
Alors moi, j'ai travaillé. Après, il y a eu ma seconde sœur aussi qui est rentrée, pareil, la même chose. Elle était en train de faire, on l'avait envoyée faire dans un bistrot, si vous voulez, les ménages. Et quand l'autre est partie là-bas, elle a dit, j'ai pas fermé encore. Aller travailler, que faire, ça ne l'intéressait pas de faire les chambres, les bonnes non plus. Elle est partie aussi. Et moi, j'étais partie travailler. Donc, dans cette caisse de bois, chez Adam. Et il y a eu, je ne sais pas ce qu'il y a eu, c'était dur comme travail aussi.
J'imagine, oui.
C'était dur.
Physique.
Travailler dehors, tout, c'était dur. Et en fin de compte, un jour, je ne sais pas, ça nous a pris avec une autre. Avec une autre comme moi, qui avait 6 ans. On n'a rien dit aux parents. Et puis on est parti.
Comme ça.
À la base sous-marine, à nous. Et je suis arrivée, naturellement, il y avait une interprète. Il a dit, vous allez de
Toronto. Attendez, c'était comment, la base, à l'époque? C'était comment?
Alors, attendez, on arrive là, on prend, c'était à l'entrée, c'était comme à la caserne, il y avait des grilles, et il y avait un poste, une guérite, et il y avait des Allemands, un Allemand de garde, mais il y avait toujours un interprète. Alors, je me demandais qu'est-ce qu'on venait faire, là. Malgré qu'il y avait déjà du monde qui travaillait, mais on était un peu jeunes. Alors l'interprète, là, j'étais une fille aussi, elle nous dit, qu'est-ce que vous venez faire ici? Et bien, je dis, on cherche du travail, et puis il y a mes sœurs qui travaillent là. Il y avait donc Marie et Dolores, mes deux sœurs. Oh, mais dans ces conditions, si mes sœurs avaient 10 ans de plus que moi, et là, parce que c'était quand même assez sévère, elles ne croyaient pas qu'on trimballait comme ça, hein. C'était assez sérieux. Donc, alors bon, nous sommes un peu jeunes, on nous a embauchés et on est parti, on a travaillé là-bas, on a épluché les pommes de terre.
Dans la cuisine.
Oui. Alors, la base sous-marine, elle était bien retirée. C'est-à-dire qu'ils faisaient commencer à faire les constructions. On disait la base sous-marine, mais à l'époque, il n'y avait rien.
Ouais, ouais.
Mais nous, on n'avait pas accès à ça. Hein. On ne trimballait pas dans la base comme ça. On avait les cuisines qui donnaient presque de côté à char. Et la base sous-marine, elle y allait même par Bacalan, par Saint-Louis.
Oui.
Alors, on avait un osveille, on nous a fait des osveilles, mais on ne nous laissait pas circuler, parce qu'il y avait des chantiers. Il y avait des chantiers en plus qui faisaient la base sous-marine. Tout le temps, il y avait des chantiers, des gens qui faisaient la ferraille, d'autres qui faisaient autre chose.
Alors, c'était qui, les gens? Les travailleurs, c'était qui?
Ah, mais c'était des Allemands. Et la firme... Moll, il y avait plusieurs firmes, mais c'était que des Allemands.
Au début, c'était que des Allemands.
Kubler, tout ça, il y avait tout un tas de firmes.
Ouais.
C'était toujours l'organisation de toute.
Alors, on le voyait, le gars de la toite, ils avaient le brassard, non?
Non.
Non? En uniforme?
Il y avait que nous, on a vu, à la base sous-marine, on ne peut pas dire qu'on était en contact avec les Allemands. Que, quand on était dans les cuisines, il y avait des jeunes soldats qui venaient chercher les thermos. Les thermos.
Des contenants.
Oui, c'était des...
Thermos chauds.
Ah, le thermos,
c'était des très lourds, des trucs très lourds. Et alors, ils venaient pour chercher la soupe pour les ouvriers.
Oui.
Et j'étais à deux, ils portaient ça avec une barre de... C'est dommage qu'à ce moment-là, on n'avait pas d'appareil photo. Alors, ils portaient ça et ils venaient chercher, des fois, ceux qui étaient trop loin, la soupe.
Mmh.
Et il y en avait d'autres qui étaient plus près. Alors, il y en a qui ne pouvaient pas laisser leur travailler. Parce que ce n'était pas rigolo ce qu'ils faisaient non plus. Ah. Ce n'était pas du gâteau. Oui. Et ils travaillaient depuis 7h le matin jusqu'à 7h le soir. Hein. Il n'y avait pas de dimanche rien.
Ouais, ouais,
hein.
Ouais.
Nous, on les a vus. Ma soeur les a connus quand ils venaient déjà de Saint-Médard, qu'on les a menés en wagon.
Elle les a vus ? Elle les a vus ? Oui.
Oui. Et moi, je les ai vus venir à pied. Mais alors, à ce moment-là, c'était la jeunesse à Pétain qui les menait.
La jeunesse à Pétain ?
Oui. Vous avez les jeunes, là, comme on appelle ça, avec le béret, là.
Le service. Les milices.
Alors là, c'était pas non plus. Pas, là, ils n'ont pas été gâtés.
J'imagine.
Les jeunes miliciens, c'était des jeunes. Vous savez que vous voulez un petit peu. Alors à l'époque, là, quand je les ai vus arriver, bon, ça nous a un petit peu choqués. Ils étaient encore avec les jambes entortillées, le papier, le ciment, les. Vous savez, les sacs de ciment. Ils s'entortillaient, les sacs de ciment. Ils n'avaient pas de chaussures, ils traînaient avec des sandales et avec les caoutchoucs, les voitures, vous savez.
Oui,
ils se faisaient des arbres de trucs avec des lanières, comme ils pouvaient, quoi. Ils avaient déjà connu ça dans les camps de concentration, ça les choquait pas trop, hein, d'où ils arrivaient.
Ils connaissaient déjà.
Ils venaient à pied depuis Saint-Médard ?
Et ?
Depuis Saint-Médard ?
Non, on les a amenés en camion, je sais pas où, mais nous, ça me choquait quand je les ai vus avec les miliciens. Et après, ils ont enlevé les miliciens, alors quand ça a été déjà qu'ils ont fait... Les Allemands se sont rendus compte que ce n'était pas quand même des choses. Ils en ont mis des Espagnols pour les mener.
Oui, oui.
Alors là, ça a changé.
Mais attendez, juste, alors donc, vous les avez vus, en fait, ils faisaient les trajets sans Médard, en bus, jusqu'à la base.
Moi, je les ai connus déjà qu'ils faisaient le trajet de
Niel.
De Niel.
Mais est-ce qu'à la base, il y avait aussi un camp ?
Non.
Ils ne dormaient pas à la base ?
Non.
Personne ne dormait à la base ?
Si. À la base, il y avait des bâtiments, mais c'était des Hollandais aussi. Il y avait des Hollandais qui étaient habillés comme en allemand.
Oui.
Il y avait qu'eux qui étaient logés en face des cuisines.
D'accord.
Ils avaient des grandes bâtisses et ils dormaient là. Il y avait combien ? Une trentaine, une quarantaine.
D'accord. Pour moi, c'était des volontaires. Les Hollandais, ils venaient pour l'argent.
Sans doute.
Oui, oui.
Les Hollandais, autrement, les Espagnols, ils ne dormaient pas là-bas. Aucun.
Aucun.
Non. Il ne pouvait pas, il n'y avait rien. Il
n'y
avait que les cuisines, et la base était louée, mais les cuisines étaient comme ici à la Blanche, quand même.
Parce que certaines me disent qu'il y avait un camp quai de Paludad. C'est comme on dit. Qu'il y avait un petit camp rue de Paludad. Mais ça, c'est loin, ça, c'est à la gare.
C'est à la gare Saint-Jean, aux abattoirs.
Il y avait quelque chose.
Je passe au venant, c'est le sable.
Non. Mais par contre, alors, donc, vous rentrez le soir, évidemment, à la maison. Donc, tout le jour, voilà, tranquillement. Oui. Mais on m'a aussi parlé de la caserne coloniale.
Alors, la caserne coloniale, j'y suis restée très peu. J'y suis restée environ 3 mois. Parce que j'étais à la caserne coloniale. Le lendemain du bombardement de la base sous-marine.
D'accord.
Moi, je suis restée à la base sous-marine jusqu'au 17 mai 1943. À midi, il y a eu le bombardement, le 17 mai 1943, je me rappellerai toujours. On a eu le bombardement et par le fait, la cuisine était...
Capote.
A été touchée. Et on est parti en courant. C'est la seule fois que je suis rentrée à la base sous-marine, moi. Quand le bombardement, on n'était pas à l'abri. Alors, il y avait des chaudières avec la soupe et tout, vous voyez, que ça aurait pu éclater. Et je suis partie, je me rappelle, on ne s'est plus vu, aucune. Tout le monde est parti en courant.
Il y a eu des morts.
Et moi déjà, il y a un monsieur à côté de moi, il y a une fenêtre qui est tombée à l'intérieur de la cuisine. Et j'ai vu qu'il avait reçu. Mais je suis partie en courant, j'étais affolée, moi, j'avais 16 ans. Hein. Ouais. Partie en courant, tant que je pouvais.
Alors, monsieur, il a reçu la vitre ici hein.
Oui, et bien, je l'ai laissée parce que... Et quand je suis partie vers la base sous-marine, J'ai vu aussi, je crois que c'était un Polonais, ils étaient ensablés. La bombe était tombée, ils étaient en train de travailler, alors tu sais, j'étais comme une folle, je vous dirais. Et j'ai vu ce bonhomme, il y avait d'autres bonhommes, mais ça criait de partout. Et j'avais perdu même ma sœur. Je ne savais pas comment elle était partie, une de mes sœurs. Et quand je suis rentrée à la base de sous-marine, je vous dis, c'était comme la benonge pour être à l'abri, parce qu'ils n'étaient pas à l'abri, nous. Tandis que là, il y avait un blocos déjà. Hein.
J'étais déjà,
oui. Quand j'étais, moi, il y avait déjà le blocos, vous voyez, j'étais un peu à l'abri pour faire la base de sous-marine. Et j'ai trouvé ma sœur, qui était donc avec Edouard, son fiancé, donc, qui est mon beau-frère maintenant. Et on est restés dedans. C'est la première fois que je voyais la base de sous-marine, parce qu'on ne laissait rentrer personne. Hein.
Ah,
on était vraiment à l'écart de tout. Quoi.
Mais vous dites Polonais. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les Polonais, là ?
Il y avait des Polonais.
Il y avait beaucoup de Polonais ?
Il y avait un groupe qui était donc comme les Hollandais. Là, ça devait être, il y avait deux ou trois Polonais.
Ils étaient surveillés ou ils étaient plutôt
non,
les chefs ?
Non, c'était les chefs. Travailleurs.
Aussi. Travailleurs ?
Oui. Et les Hollandais, ils travaillaient aussi. Ils partaient le matin.
Mais les Hollandais, c'était des nazis. Hein.
Oui. Et ils partaient le matin et ils allaient travailler aussi. Maintenant, s'ils étaient chefs ou pas chefs, vous savez. Parce qu'après, ils ont mis des petits chefs un peu partout.
Oui, ben ils se prenaient tous pour des chefs.
Parce que nous, dans les cuisines, on était assez nombreux. On avait le chef cuisinier qui était français, celui qui faisait la cuisine. Alors, on faisait la cuisine pour des messieurs, pour les Allemands. Et il y avait alors des Espagnols qui étaient aux marmites. Nous qui faisions, on était une tablée, on était une quarantaine.
Oui, évidemment.
Alors, ça s'appelait les patates salées, les cartoffeuses, comme je disais.
Elle était bonne, la soupe?
Pensez dans les porcs, je vous racontais. Alors, on épluchait les pommes de terre, mais là, Arbeiter, hein, c'était schnell, toujours comme ça pressé. On n'avait qu'un chef. Et c'est un monsieur qui est allemand, roman. Et alors, c'est lui qui supervisait la cuisine de la marche. Mais il ne se mêlait pas, vous voyez, de nous. Il n'y avait que quand il voyait des yeux, des pommes de terre, comme il disait. Vous savez, des fois, quand on pèle mal les patates, alors...
Ah oui, c'est quand on pèle l'épée...
Mais lui, il était dans les bureaux, il disait... Enfin, il y a le cuisinier qui disait que c'était un gars qui était à l'arrière parce qu'il était malade, un gars très, très sérieux. Mais avec les Espagnols et tout, de la cuisine, il n'y avait pas de rien. Il n'y avait qu'une interprète. Et au-dessus de lui, il y en avait un autre qui était fou, Karl. Alors, c'est un chef, mais on le voyait. Alors, celui-là, oui, celui-là, il est rentré, mais nous, on n'avait pas fait. Il n'y avait qu'un drôle qui nous gardait. Un jeune Allemand aussi qui n'était pas fini, le pauvre.
Il n'était pas fini ?
Non, il n'était pas fini. On n'en a plus, voir.
Otto, c'est celui-là ?
Non, c'est pas Otto, c'est pas Otto.
Non, c'était un petit jeune, nous avions un petit jeune pour nous surveiller. Je me rappelle, il y avait des femmes qui travaillaient, des gamines. Je me rappelle, et qui nous disait toujours, allez, chantez.
Chantez.
Vous voulez qu'on chante. Et puis, les filles faisaient des crosses et tout, vous voyez, c'était pas... Mais par contre, Herman, quand vous voyez, à la cuisine, c'était sérieux.
C'était, il fallait se tenir au
même corps. Même les cuisiniers, ça bardait, ça travaillait, ils ne croyaient pas que chômait, là. Ils faisaient là. Alors, le midi... Les ouvriers qui pouvaient se déplacer, ils venaient manger. Il y avait un réfectoire.
Près de rue Achard, donc.
Un réfectoire, je ne vous dis pas. Hein. Des tables avec des bancs, et les pauvres, je crois qu'ils n'avaient que de meilleure humeur. Et alors, on n'avait même pas de contact avec eux. Il y avait, vous savez, un passe-plat. C'est ma sœur qui servait. Alors, c'était du bouillon avec quatre carottes. Alors, donner ça, je crois, une boule de pain. Ils avaient des boules de pain allemand, vous savez comment c'était ?
Oui, oui, des petits pains, oui.
C'était non, c'était comme ça, volumineux, comme les pains de mie, tu vois. Mais c'était différemment. Alors, une portion. Mais alors, elle avait le droit de nous donner que une grosse louche aux Écossais. Elle avait 15 ans de plus que moi. Une louche, je me rappelle les pauvres, ils disaient « Allez, va au fond, j'aime ce qui est cramé. »
Il n'y avait pas de viande dedans.
Non, il n'y avait pas de viande. De temps en temps, il y avait par contre, quand il faisait le manger pour sans doute les officiers qui s'emportaient.
Alors, il y avait sans doute de la viande, des cognacs, du vin, oui.
Mais les pauvres, alors. Alors, nous, après, on nettoyait. Ils s'en allaient. Mais après qu'ils étaient partis, on nettoyait les tables. Et on donnait un peu de balai, quoi. Mais alors, les pauvres, ils n'avaient que ça. Hein. Alors,
c'est pas contre, grand-chose.
Et non, pas
aller. Pour des travailleurs de force,
c'est pas grand-chose. Et les élus, moi, ils faisaient un hiver horrible. Ça m'a marqué pour la vie, moi. Arrivé, et alors, ils avaient des grands bidons dans les chantiers. Je voyais, il n'y avait qu'une firme qui était à côté des cuisines. Derrière, ils faisaient la ferraille. On avait des vitres aux cuisines. C'est les seuls qu'on voyait de près. Des fois, ils venaient comme ça, ils tapaient aux fenêtres. Alors, on les voyait, ces hommes, avec le froid qu'ils faisaient. Ils avaient des grands bidons, les bidons. Ils mettaient du bois, comme ça.
Ah, pour s'échauffer, oui.
Voilà, c'est horrible. Moitié habillé. Ils ne pouvaient pas sortir, à l'époque. Et voilà, ça ne voulait pas, la caserne. Hein.
Donc là, c'était 42, 43 ou 41
non,
42. 42, l'hiver
42. Alors, ma soeur a connu depuis l'occupation en 42, là, ça a été fort. Moi, déjà, quand j'étais, mais là, ils ne sortaient pas encore. Hein. On ne les laissait pas sortir, alors on les ramenait.
À Niel.
En bateau, des barques.
Ouais. Elle est toujours la barque.
Ouais.
Elle est toujours à la base sous-marine, ils ont mis la
ouais,
barque.
Oui, j'ai été, bonjour.
C'était une grande barque. Sous-marine. Mais attendez, pas très vite, on va y arriver, Agnès. Mais racontez-moi d'abord ce que cette caserne, la caserne coloniale, alors.
La caserne coloniale, c'était un peu comme la caserne Niel.
Oui.
Il y avait des habitations.
En dur.
Ils étaient partagés, comme la caserne Niel. Ils allaient dormir là-bas. Mais ils allaient travailler à la base sous-marine.
Mais il y avait qui? Il y avait des Espagnols?
Que des Espagnols. Et alors, par contre, il y avait des avantages dans le banc, là.
Ah bon?
C'était pas auto, oui.
Donc il y avait que il y avait pas des Africains, des Nord-Africains.
Et ça j'ai jamais compris. Il est arrivé un contingent de 200-300 Marocains.
Oui.
Et ils étaient habillés en toile de sac, presque blanc.
Ah bon.
Crème. Et j'ai le souvenir qu'ils étaient frileux quand ils venaient chercher les. Parce qu'ils venaient aussi des fois chercher la soupe, les ouvriers. Ils se mettaient contre les bassines. Vous savez, on faisait cuire les soupes, on les chacalait. Ils étaient gelés.
Ah, oui.
Et du jour au lendemain, je ne les ai plus revus à la base sous-marine.
Ah bon.
Mais ça, personne n'en parle. Mais moi, je sais qu'il y a un contingent de...
Je sais qu'il y avait des colonies.
Et j'ai parlé avec eux, parce qu'ils parlaient français. Il y en a un vieux grand-père qui venait. Et il a dit, nous a dit qu'on venait travailler, qu'on nous amenait travailler en France. Et il dit, on ne savait pas que c'était ça, mais obligé, ils sont venus aussi.
Ah oui, c'était des travailleurs forcés.
Obligés, quoi. Oui.
Mais ils ne sont pas restés longtemps, là.
Je ne les ai pas plus revus. Et les Espagnols n'en parlent pas non plus. Et ça, j'ai le souvenir qu'ils se collaient contre les grandes bassines, parce que c'était des bassines comme ça, reversibles, vous savez. Et il fallait remuer ça comme avec des. Avec les. En pelle en bois.
Avec un rame,
oui, alors, c'est pour dire la soupe que c'était.
Oui.
Hein.
Oui.
Alors, ils se collaient, et puis nous, on avait pitié, on les laissait un peu, mais aussitôt que Herman arrivait, ils n'ont rien que voir, ça n'a imposé. Ouais. Je ne sais plus.
Mais c'était des Marocains, c'était pas des Noirs, alors.
C'était des Marocains. Ils étaient tous habillés avec une veste et un pantalon, mais c'était comme de la toile de sac, mais crème.
C'était des soldats. À l'origine, c'était des soldats. Maintenant, ils sont devenus prisonniers des guerres des Allemands, et les Allemands les ont fait travailler. Dans les Landes, il y en avait beaucoup, énormément. Mais en Gironde, je ne savais pas qu'il y avait 200-300.
Moi, je l'ai dit, oui.
D'accord, mais racontez-moi, alors c'était la caserne coloniale, c'était une caserne classique.
Une caserne comme la caserne Niel.
Avec des rondes, des gardiens.
Il y avait des guérites. Vous savez, comme autrefois, comme vous voyez ceux qui montent la garde en Angleterre, là, il y avait des guérites comme ça. Et alors, personne ne passait, il fallait avoir leur veste.
Donc ils étaient bien enfermés.
Et c'était fermé, là, ils ne pouvaient pas s'en aller.
Et ça se passait comment?
Et bien nous, j'ai pas eu, à la caserne coloniale, moi j'ai pas eu... On ne nous laissait pas sortir pour ainsi dire des cuisines et aller voir ce, comment ça se passait. D'accord. Et bien c'était pareil, le matin on devait les amener en camion et les amener travailler à la
maison. Mais il n'y avait pas de français, il y avait ni gendarmerie.
Non, non, je parle de français.
C'est que les soldats allemands et les espagnols.
Bon. Alors après à la base sous-marine, par contre, il y avait beaucoup de jeunes alsaciens.
Ah.
Mais que j'ai connu après, même il n'y a pas longtemps, c'était, paraît-il qu'ils étaient enrôlés de force.
Oui, hein?
Alors, ils étaient bien allemands. Hein?
Mais ils n'avaient pas le choix.
Alors, il y avait une qui était secrétaire dans la ferme qui était à côté de moi, c'était une Alsacienne, elle venait nous voir, et son frère, il très malé là-bas, on me dit, oh, mon frère, le fils, il était bien allemand, hein? Comme ton André, elle me dit, mais il est français, mais on nous a enrôlé de force, je m'en fous, je ne veux pas, parler avec ton frère aussi de maintenant. Et alors là, il y avait beaucoup, il y avait des Alsaciens aussi.
Ah bon.
Mais pas énormément, mais les Français, je n'ai pas appris.
Donc, qui travaillaient ou qui surveillaient les Alsaciens?
Non, ceux-là, ils étaient des petits chefs. Des petits chefs. Enfin, des petits chefs. C'est-à-dire que là où il y avait des Espagnols, il y avait un Allemand.
Mmh.
Et bien, c'était un petit peu, vous voyez...
Capot, comme on dit.
Oui.
Un petit capot.
Mais enfin, j'étais pas une femme.
Mais ils avaient quoi comme brassard?
Je m'en rappelle. Ils devaient avoir... Ils avaient tous le brassard avec la croix gammée.
La croix gammée. Oh, ah, oui. Ça, c'est la SS, donc. C'est pas pareil. La SS, c'était le vrai méchant. Parce qu'il y a pas mal d'Alsaciens qui en fait étaient enrôlés des forces dans la SS, Waffen-SS.
Oui,
donc...
Ils avaient la croix-gamme, mais...
Bon,
alors après, à la base sous-marine...
Alors pourquoi vous êtes resté que 3 mois à la caserne coloniale, et après, avec votre sœur, vous avez, toutes les deux, vous avez embauché chez Otto?
J'avais mis 2 sœurs aînées à la base sous-marine.
Oui.
Bon, une quand elle était enceinte... Marie, le chef que je vous dis là, Karl, qui venait, le grand chef, elle était enceinte et a commencé à. Je me rappelle, il voulait qu'elle lui serre les bottes, tu vois, puis elle a dit, j'en ai marre.
Oh, d'accord.
Vous savez,
il n'aimait pas les femmes enceintes, quoi.
Et
il n'aimait pas les femmes enceintes.
Et alors, elle est partie à la caserne de Niel.
Elle était fâchée, elle n'avait pas envie de serrer les bottes, elle est partie.
Non, mais c'est qu'il était. Il était. Il avait pris en grippe parce que, je sais pas, il était poni. Alors celui-là, par contre, heureusement qu'on l'avait comme ça de temps en temps, mais il était vraiment, c'était un
aussi. Il y en avait pas mal, hein. Les nazis, il y en a pas mal qui sont un peu...
attendez. Après, alors, il est parti.
Vous avez vu des choses...
Alors, il était à la caserne Niel. Elle rentrait à la caserne Niel quand c'était déjà bien. Alors, la caserne Niel, par contre, au début, ils n'étaient pas bien non plus.
Comment dire, oui.
Ils étaient avec les Allemands. Au départ, les Allemands, ils ont considéré comme les Français, ils ont dit, voilà, des républicains, voilà, des rouges. Et ça allait mal, quoi, à ce moment-là. Mais Otto, il est venu avec les Espagnols. De la guerre aussi. Et il a commencé à dire, si on me laisse le pouvoir, moi je vais pouvoir mener tous ces hommes, parce que les autres, ça allait mal avec les Allemands.
Hein. Oui, attendez, donc il y avait, avant que Otto arrive avec ses hommes, il y avait déjà des Espagnols.
Ça a été mal.
Mais il y avait des Espagnols.
Que des Espagnols.
Que des Espagnols.
Pas que des Espagnols.
Il n'y a jamais eu de Juifs.
À la caserne de Niel, je n'ai connu que des Espagnols.
D'accord.
Il y a eu... peut-être un cuisinier français, tout ça, autrement, c'était que des Espagnols.
D'accord.
Alors, ils avaient des bâtiments où ils étaient logés.
Mais lesquels? Quand on rentre...
Mais je vais vous dire.
Oui.
Des bâtiments, ils étaient, je ne me rappelle presque plus, moi. Ils étaient sur le fond, nous, les cuisines étaient à l'entrée.
Oui.
À l'entrée, vous voyez,
à gauche?
À droite.
À droite, d'accord.
Et eux, ils étaient... Vers le fond.
Il y a des bâtiments au fond.
Tout ça. Alors c'était... C'était des chambres. Je vous dirais pas. J'étais qu'une seule fois. Parce qu'on a été obligé d'y aller. Parce qu'un monsieur s'était trouvé mal. Je ne sais pas s'il avait eu un monsieur qui avait perdu une jambe à la guerre. Et ils étaient nombreux.
Ils avaient... Attendez, il avait perdu une jambe à la guerre, il travaillait à la base marine.
Oui.
Avec une jambe.
Oui. Mais alors, c'est pour ça qu'on l'avait mis comme... Il ne pouvait plus travailler. Et on l'avait mis comme gardien dans les chambres. Pour balayer et tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui était arrivé. On l'avait ramené. Il avait une chose en bois, qu'on lui avait en bois. Alors, ils étaient logés, comme vous voyez, les déportés.
Les lits superposés, oui. Ah,
une couverture militaire. Ils n'avaient pas de paillasse. On me rappelle le jour où j'étais, il y avait un grand poêle au milieu, pour toute la pièce, mais je ne sais pas combien il devait être, 50 peut-être. Ah oui. C'est nombreux aussi. Et alors, il y avait, j'appelais ça, j'étais que la H4, il y avait, vous savez, j'étais numérotée. Et alors, après, quand mon auto est venu, ça commençait donc à voir la proposée, parce que déjà des gardiens, il n'y en avait pas. Tous ces hommes qui étaient invalides, il les a placés, vous voyez, pour l'entretien, le nettoyage. Et alors là, il a commencé, il a monté une infirmerie. Il y avait un coiffeur. Après, il y avait, mais c'était déjà la fin, un tailleur. Mais tout, cela aussi, c'était des planqués, comme on dit. C'était des Espagnols, oui. Des planqués.
À la fin, vous avez vu le journal Guilla, non, vous
l'avez jamais vu? C'est la Guilla, voilà, nous, on a tous les exemplaires, en fait.
Vous avez tous les exemplaires.
Oui.
Et vous dites rien.
Mais c'est-à-dire qu'on a trouvé ça il n'y a pas longtemps, un jour qu'on a vidé, parce que, mon oncle, c'était un qui avait fait la guerre d'Espagne. Et qui a continué ici à y croire.
Oui,
comme jusqu'à voilà. Donc au début, il avait des contacts en Espagne, il a gardé tout un tas de trucs, il a fait partie, il a été président du...
Non, pas Salan.
Voilà, non, du Casal Catalan. C'était des vrais Catalans. Donc il a milité, il a fait plein de choses, et puis à un moment donné, je crois qu'il a baissé les bras. Le Tillette, il a baissé les bras.
Il n'a pas baissé, mais comme il était discret, il a continué.
On ne sait pas trop ce qu'il a fait. Mmh. On a découvert il n'y a pas longtemps qu'il était...
Oh, les courriers, tout
ça. Il a été condamné à mort.
On a récupéré les dossiers des jugements historiques à Barcelone. Parce qu'avec la Ley de Memoria Histórica en Espagne, on a pu avoir accès, il y a 2 ans, on a pu récupérer les dossiers des condamnés à mort de la guerre d'Espagne.
Et vous l'avez vu, son dossier?
Oui, ouais. On l'a été chercher.
Il était condamné de quoi?
Condamné à mort.
A été condamné à mort, c'est-à-dire que en fait, il y avait toujours... Mais bon, on va la laisser expliquer, après on vous expliquera. Ils ont été... en fait, ils sont venus en France, mon grand-père qui était jeune, sa mère et sa sœur, et son frère sont restés en Espagne pour garder les biens. Et donc, on nous avait toujours dit qu'ils avaient arrêté le grand-père et que son frère avait été condamné à mort. Et donc, en procès, il avait fui. Donc, lui, il est venu en France. Et donc là, il y a 2 ans, à Barcelone, on a été chercher les dossiers, effectivement. Donc, c'est tout, c'est là. Et donc, il était accusé d'avoir tué...
Volé des vaches.
On a bien rigolé, mais bon, voler des vaches, c'est des gens dans les rues. Et donc, ils ont été tous condamnés. Il a été recherché. Après, il y a eu des procès. On a tous les témoignages de tous les...
Oui,
En fait, il y a eu des procès
militaires.
Procès militaires. Militaires. Et donc, ils ont été... avec des faux témoignages, etc., des phalanges.
C'est-à-dire
qu'ils avaient des biens, alors c'est des voisins pour prendre les biens, comme dans tout. Je pense.
Ouais, c'était les biens, donc ils ont dit qu'ils avaient tout volé.
Il n'a pas été exécuté.
Parce qu'il a fui. Le grand-père a fait de la prison.
Le grand-père est mort en prison.
Il n'est pas mort en prison, il est sort. En fait, parce qu'on nous avait toujours dit qu'il avait été de Montjuïc à Barcelone, il a été jeté de la prison. Il a été jeté...
Il est resté combien de temps?
3 ans.
3 ans, et en fait, il a été jeté, on nous avait dit qu'il était 80.
À 80 ans.
Ils l'ont mis en prison. De 80 ans pour 3 ans.
Et ce qu'on nous avait dit, c'est qu'il avait été jeté comme moribond dans la rue, etc. Et en fait, quand on a demandé le procès, on a eu la preuve, parce qu'en fait, il témoignait, il était en procès militaire... comme, enfin, je sais pas, le vocabulaire. Mmh. Il signait à chaque fois, donc il y avait sa signature. Et sur la fin, avec 8 personnes, et sur la fin, il avait plus, ça se voit, il n'avait même plus la force de signer, donc il y a un petit trait.
Il est sorti de prison, il est mort.
Il est sorti, il a eu l'autorisation de sortie, ça c'est ce qu'il y a sur le dossier, et il est mort.
Ils l'ont libéré pour qu'il meure dehors. Pour qu'il meure pas dedans.
Voilà, c'est ça.
Mais par contre, les autres.
Bah, 80 ans, 3 ans de prison sous Franco, ça doit, ouais, pas, donc, ça doit laisser des traces.
Ouais, la Guilla, tout, en fait, on a toutes les revues de la propagande. À l'époque, on les a ici en double.
On vous les cherchera si ça vous intéresse.
Ouais, non, c'est vous devinez ma question.
Voilà. Non, mais non, parce que là, donc on a découvert tous ces papiers qu'on ne savait pas il y a 2 ans quand on a vidé un peu. Et donc.
Donc vous êtes allé, vous avez mené des recherches.
Ça fait 40 ans.
J'ai été en Espagne depuis 20 ans.
Ah, okay. Ça fait donc 40 ans qu'on ne savait pas qu'on avait ça.
C'est connu cette histoire en Espagne, des exilés, des Espagnols républicains.
Ils ont parlé un petit peu de la retirada là, ces derniers jours.
Oui, c'est l'anniversaire, mais après la retirada.
Mais ils ne connaissent pas, je pense, vraiment le cas de ceux qui sont allés en France, parce que ceux qui sont restés ou ceux qui sont partis sont vite revenus. Ceux qui sont revenus n'en ont pas trop parlé, en fait.
Oui, oui.
Ils ont récupéré leurs biens.
Et ceux qui sont restés ici.
On a été avec mon mari.
On a été oubliés.
On a été avec mon mari faire des recherches. Ouais. Et puis, même on n'a même pas trouvé rien, même. On a cherché, on a été voir à l'église, voir les choses du baptême. Il ne reste rien.
Pas si une trace. Un peu quand même.
Donc là, il y a Mataro, en fait, bon, je fais un sujet. Mataro est en train de. Ils ont plein de documents et ils recherchent dans le village où était mon grand-père. On m'a dit qu'il fallait y aller parce qu'ils ont plein de trucs, ils essayent de les attribuer aux familles.
Ah ouais.
On a vu la propriété de mon mari. Il l'a vu, là où il habitait. Il y a encore une pierre,
énorme.
Un galet, comme ça gras, encore marqué maison à mat, voyez. Et le gars qui habitait là, il a dit, moi, j'achète. Et on a vu un vieux qui a dit que oui, qui se rappelait qu'il était limitrophe avec la propriété. Et d'après ce que j'ai compris, ils se sont mangés parce que mon beau-père, ils avaient une petite... industrie de coton, des gilets de peau, tout ça, vous savez. D'abord, il était ingénieur, mon beau-frère, dans le textile. Ma belle-mère est venue à la guerre de 14, livrée ici, dimanche à Narbonne, ou je sais pas où, Panama, il était plus âgé. Et il a laissé, quand la guerre est venue, il a donné tout ce qu'il avait pour les miliciens, pour qu'ils habitent dans l'usine, pour... il a donné tout ce qu'il avait à l'armée.
Et du coup, il était...
voilà, c'est ça. Personnellement... Il a été accusé d'avoir...
Mais vous vous rendez compte, il s'agit quand même d'expropriation par l'État.
Oui, tout à fait.
Sans aucune... Alors, il y a une chose qui me revient à l'esprit, c'est quand, après la guerre, la ex-RDA, l'Allemagne de l'Est, s'est constituée, là aussi, on a tout pris aux gens. Quand il y a eu la réunification en 90, les gens ont dit ça m'appartient, donc je veux être remboursé ou récupéré. Donc on n'a pas oublié. On n'a pas oublié qu'en 45 on a volé les gens et en 45-90, faites les calculs, deux générations plus tard, les gens sont revenus récupérer leur château, leur maison, etc. C'est le vol d'État.
On n'a rien trouvé.
On n'avait rien trouvé.
Ni la mairie.
Mais déjà, on n'a pas les papiers. Enfin, on n'a jamais fouillé. Parce que
nous, on a déjà commencé. En fait, on a début, j'ai fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire, si vous connaissez le cas des Catalans aussi le cas des Catalans, parce que vous êtes historien. En fait, au début, on m'a ouvert exprès, alors que ce n'était pas ouvert au public, toute la base de données de Josep Tarradellas, qui est devenu le président de la Catalogne quand il était en exil aussi. C'était un exilé comme les Espagnols. Il dirigeait la République de Catalogne depuis l'Espagne. Et quand il est décédé, donc quand Franco est mort et qu'il est revenu en Espagne, il a été président de la Catalogne pendant longtemps et il avait gardé tous ses dossiers privés, bibliothèques. Et quand il est mort, il a demandé à ce que jusqu'à 30 ans après sa mort, l'archive soit pas ouvert au public.
Oui, on protège les gens. Oui.
Moi, quand au début, je suis partie, j'ai essayé donc j'ai appelé, d'ailleurs, je suis encore en contact avec elle, sa secrétaire qui est chargée de l'archivo, me l'a ouvert en une journée pour moi, puisque nous, on avait des lettres, justement, des papiers, on ne comprenait pas bien, qui disaient, on a des lettres d'échange pendant... entre 45 et 78, on avait des lettres d'échange avec notre grand-oncle. Et donc, on m'a ouvert l'archivo pendant une journée entière. J'ai pu fouiller, mais on a plein de courriers, mais on n'a pas trouvé.
On ne comprend pas parce qu'on nous en a. Bon, mon oncle, il n'en a jamais parlé. Il n'a jamais parlé de la guerre, il n'a jamais parlé des camps.
Et donc, c'était un intellectuel, c'était quelqu'un de chauve qui fréquentait.
Il ne s'est jamais plaint. On ne sait absolument rien. On ne sait pas ce qu'il a fait, parce que quand il a la retirade, lui, il n'est pas revenu de suite, puisqu'il est resté en Espagne. On ne sait pas. Et mon père n'a jamais parlé. Mon père a commencé à parler de 43, après la caserne.
Il fallait le questionner.
Fallait pousser un peu.
Ouais. Et encore non. Lui demander. On n'insistait pas parce que bon, sans doute qu'il avait décidé d'oublier.
La base sous-marine, moi, il m'a expliqué qu'il avait monté toute l'électricité quand même. Oui. La première fois qu'ils ont ouvert la base sous-marine pour faire des expos.
Oui, avec toi, il parlait.
Avec moi.
Avec toi, il t'aurait
dit. Il m'a expliqué tous les montages électriques. En fait, ils ont fait les installations électriques de la base sous-marine.
Ça, il m'avait expliqué. Oui, mais à la base de son mari,
Contre, il ne nous a jamais parlé des conditions.
J'ai froid.
Il ne nous a jamais parlé des camps de concentration, il ne nous a jamais parlé de rien. Non.
Et le tiers, que le plus dur est en amont.
Oui, c'est avant.
D'abord, c'est en 39 où il se retrouve dans des
conditions. Le plus que j'ai chaud,
il a commencé à parler de ce qui a été le plus, à mon avis, plus doux.
Et disons que Niel était quand même.
Le plus que j'ai entendu, c'est jeune mariée, ma belle-mère habitait en France déjà. Il y avait une copine qui venait la voir, elle parlait en catalan, elle parlait, et c'est le plus que j'ai entendu d'elle, mais mon mari, rien.
Jamais, pas un mot.
Des fois, j'ai mes liens conscients.
Mais elle en parlait, parce que moi j'étais petite, mais je m'en rappelle, ma grand-mère, elle voulait que...
Mais moi, j'ai pas posé de
questions. Les garçons, ils ont du mal à extérioriser.
Pour en venir à ça, c'est pour ça qu'on a trouvé on a trouvé tout un tas de livres.
C'était que mon frère, c'était quelqu'un qui
était connu. Il a continué, si vous voulez, à correspondre avec des gens.
Il a continué longtemps. Parce que quand j'ai fait un voyage avec ma belle-mère, c'est que vous saviez que je suis arrivée à la frontière. Et puis, arrivée à la frontière, j'ai fait voir mes papiers, on m'a retenue. Elle m'a dit, vous ne prenez pas le train. Je lui ai dit, pour quelle raison? Il dit, votre belle-mère, Fuatano. C'était la première fois qu'elle revenait en Espagne. J'étais
56.
56.
Je me demandais, j'étais affolée. J'ai dit, qu'est-ce qui va arriver? Et en effet, on m'a dit, vous allez prendre le train suivant, mais où vous allez? Alors mon beau-frère m'avait dit, surtout, ne dis pas que tu vas. Alors, s'il était connu, Mataro, ne va pas. Alors j'ai des oncles, des frères à mon père qui sont en Barcelone, qui sont venus travailler en France. Ça ne leur a pas plu au début, il y a 80
dans les années 20.
Au lieu de repartir au village, ils sont repartis à Barcelone. Et alors, j'ai dit, on va chez M. Martin, mon oncle, c'est ça. Il m'a dit, alors je vous donne une consigne, qu'elle ne bouge pas de l'endroit. Qu'elle ne bouge pas de là, que si on a besoin de la voir, qu'elle soit là.
Assignée à résidence, on appelle ça.
Tout à fait. Ouais,
alors voyez, je ne pensais pas qu'il nous arriverait ça. Vous vous rendez compte si j'étais connue?
Vous savez, le régime de Franco est une dictature. Il faut nommer un chat un chat.
Il était connu, en plus c'était des fabricants.
Il a été condamné à mort jusqu'à ce que Franco...
Ils avaient la fabrique où j'étais voir, où elle était. Dans un petit village, c'était important.
Oui,
une fabrique dans un petit village.
Il était sans doute le seul bourgeois.
Ils étaient à l'époque, ils étaient très très connus. Bon, ben avant, on a... À la caserne.
Donc on a les bouquins, on vous les cherchera.
On les garde.
Oui, on les garde. Bien sûr
que vous les gardez. Je fais des
photos. Alors, moi, je suis restée à la caserne coloniale.
Trois mois.
Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, parce que si vous vous racontez, c'est le cinéma, quoi. Figurez-vous que vous voyez le bombardement, on m'envoie à la coloniale. Et là, par contre, on avait une grande pièce, on était 20 ou 30. Il y avait des jeunes aussi. Et on épluchait les pommes de terre. Vous savez ce que c'est, les jeunes? On a commencé à lire des romans. Alors, on a décidé, avec les petites jeunes, comme il y avait une fille qui était secrétaire, mais elle s'en fichait complètement. Elle était là parce qu'elle gagnait bien sa vie. Donc, c'était une Alsacienne. Mmh. Elle était toujours fort au bureau. Alors, ça fait que chacune à son tour, on lisait, on faisait passer à la caverne, on lisait un roman et on le racontait.
Ah oui?
Oui, mais c'est bien des drôlesses, parce que je vous assure que là, par contre, il y avait Peter. On avait un chef qui s'appelait Peter. Et celui-là, c'était quelqu'un, je me rappelle, hein, il faisait des tours. Je crois que, je sais pas qu'est-ce que je lui avais fait, mais en rigolant un peu, il faisait le tour de la caserne. Je lui avais de la boue, il ne croyait pas que c'était... Avec le vélo, puis un jour, il m'a dit, tu vas me nettoyer. Il parlait de toi, je lui nettoie le vélo. Mais je le faisais, tu sais, pour... Comme en rigolant, une drôlesse, quoi. Je dis, comment ça me merde, celui-là, vous voyez.
C'était plutôt alors, une
brimade.
Oui, j'étais, j'étais pas tous méchants. Hein. J'étais là avec quelques-uns parce qu'on les avait envoyés. J'en ai parlé avec un qui parlait un peu français et qui m'a raconté.
Il
était
pas
assez âgé. Hein. C'est celui qui nous transportait les légumes. Mm. Vous savez, avec un chauffeur, il ramenait les poireaux, les carottes, les patates. Et un jour, en parlant comme ça, il avait dit, les Allemands, on est moins méchants que les Français.
Ouf.
Et il m'a dit, on n'a pas fait ce qu'on m'a fait moi. Il a dit que après la guerre de 14, enfin après la guerre de 40, enfin avant l'occupation, quand les Français sont rentrés d'occupation, là-bas, en Allemagne, qu'il y en a un qui avait fait pousser sa mère, qui avait fait tomber sur le trottoir, qu'elle était vieille. Alors, il était très respectueux, il appelait Monsieur Légume.
Il paraît qu'ils se sont mal comportés.
On a fait aussi des choses, bon. Alors, il me faisait nettoyer les vélos, on lisait les romans.
Mmh.
Alors, j'avais lu un morceau, après, j'ai passé à une qui s'appelait Victoire, au tombeau, une drôlesse, une copine. Mais il y avait des vieilles. C'était des vieilles françaises, justement. Mais c'était pas des espagnoles.
Ah, mais tu vois, à la coloniale, il y avait des françaises.
Eh bien, à la cuisine. Il y avait des femmes qui pelaient les pommes de terre.
Ouais.
Et puis, je ne sais pas qui s'y arrive, il y a un chef qui arrive. Il regarde les pommes de terre, on n'en avait pas assez pelé, moi je n'ai pas compris exactement ce qu'il a dit. Alors, est arrivé là, au secrétaire, comme une fois, il a dit, oui, vous commandez, je me fais engueuler, vous avez passé, qu'est-ce que vous avez foutu aujourd'hui? Vous n'avez pas fait assez de pommes de terre? Il y a une vieille qui lui dit, bien sûr, on ne peut pas tout faire, pendant que les autres lisent des romans.
Oh, la balance. Oh là là.
Alors, l'autre allemand, il était derrière. Alors, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, il a dit, mais il y a les deux filles là qui. Des conneries de filles, vous savez, on lisait des romans comme ça. Alors, il a dit, bon, c'est bien. Il a dit, puisque c'est ça, maintenant vous allez à la commandanture.
Oui.
On était mortes de peur. L'autre était plus peureuse que moi, mais vous allez à la commandanture à Pessac. Oui, oui, on nous donne l'adresse. Alors, toutes les deux. Elle pleurait, l'autre. Elle me dit, oula, là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Vous savez, le monsieur avait la plaque, vous savez, c'était la commandanture. Et en sortant, sur le chemin, il y a un Espagnol qui était donc avec un qui était aussi ou polonais ou hollandais, mais qui était dans le bureau.
Mm-hmm.
Alors l'Espagnol, il sort et il me dit, vous allez, les filles, comme ça, pour être pleurées. Il me dit, oui, on nous a donné une lettre pour aller à la commandanture. Alors, il donne-moi ça. C'était Villénas, après on l'a connu, Villénas. Il attrape, puis lui, alors, il parle allemand, il lit ça. Et l'autre, il a lu la lettre, il n'était pas cacheté même. Mais donc, comme c'était un allemand, on ne risquait pas de la lire. Il a dit, oh, vous inquiétez pas, c'est pas méchant. Mais il ne nous a pas dit ce que c'était.
Ah.
Alors, on était tremblantes de peur. Je me vois toujours dans cette pièce attendant, toutes les deux assises sur un bas, qu'on a vu arriver ces officiers qui passaient. Bon, on est compte de la commandanture, c'était quelque chose, c'était où il y avait tous les gros. On nous fait rentrer dans un bureau, un monsieur comme ça, avec la casquette sur la table. Il prend la lettre. Il commence à nick, 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 nick. Oh, l'autre porte de pierre, il croit qu'elle me fait trembler. Alors, il appelle l'interprète. Alors, il n'est pas question qu'on nous renvoie. Alors, il y avait écrit sur la lettre qu'on avait été dans le bombardement de la base sous-marine et qu'il n'y avait pas de travail. C'était chouette, oui. Qu'il n'y avait plus de travail, qu'ils essayent de nous placer ailleurs.
D'accord.
Alors, vous voyez que dans le fond, on aurait pu nous foutre dehors. Alors, c'est là qu'ils nous ont dit... Vous allez où? De quel côté? Parce qu'il n'y avait pas, croyez-moi, il y en a qui étaient dans les châteaux par là. Alors j'ai dit, moi je voudrais aller à la caserne Niel.
Parce qu'il y avait votre sœur déjà.
Et parce que ma sœur était partie de la base sous-marine, elle était enceinte à la caserne de Niel. Alors il a dit, pourquoi? Alors je lui ai dit, parce que j'ai ma sœur qui travaille. On a fait un papier. Et puis l'autre avec moi pareil. Et nous voilà arrivés à la caserne de Niel. Otto.
Vous l'avez croisé?
Oui.
Il vous a accueilli?
Il a remarqué. Et puis, il vous a dit, quel âge tu as? Je lui ai dit, j'ai 16 ans. Alors, il a dit, mais c'est ma soeur qui travaille là. Ah, bon, là. Mais Otto, il y avait les deux sens. Otto, il a commencé à placer tous les Catalans. Alors, les coiffeurs catalans, les infirmiers, les catalans, vous avez partout. Alors, il y a eu à la base sous-marine, à la caserne aussi, il y a eu, mais il avait aussi un double sens, parce que j'ai entendu parler, moi j'ai entendu, parce que ça ne s'écoute pas, qu'il en a fait renvoyer, déporter, tout ce qui ne faisait pas
chose. Tout à fait.
Je l'ai entendu.
J'ai entendu aussi.
Il y en a
aussi.
Qui sont partis
à Mauthausen.
Volontaires en Allemagne, travailler aussi. En Allemagne.
Oui, si.
Parce que ça ne marchait pas. Et paraît-il, en plus, je ne sais pas si c'est vrai qu'il avait tendance à être homosexuel, paraît-il. Même ça, j'ai entendu.
Ça, c'est
des... Mais ça, c'est délicat.
Des histoires de
filles. C'est des histoires de filles.
De filles.
Et on a dit que les drôles qui ne voulaient pas fréquenter un jeune, qu'il y a eu ça, ceux qui avaient des idées un peu qui ne lui convenaient pas, qui étaient vraiment... Il n'était pas communiste, lui.
Ben, il n'était pas communiste, non.
Il n'était pas communiste. Alors, ceux qui avaient des idées un petit peu trop sourds, ils n'étaient pas communistes, non.
Non, mais ils collaboraient.
Alors, il y a eu de tout, mais comment le savoir? Il y en a qui disent, il y en a qu'on ne revoit plus, mais il y a la quantité. Mais là, je vous assure que la caserne Niel, alors après, c'est pour lui, il peut voir qu'il était responsable, là, il a fait des bonnes choses, il ne faut pas dire. Et il a commencé à faire déjà des douches, malgré qu'il y avait, un jour une alerte, on a été dans le blocos, il y a eu un blocos.
Où ?
Dans la caserne.
À l'entrée ou au milieu ?
Non, sur le côté, il y avait un blocos. On a été se refuser au blocos, et puis ils ont commencé à nous dire ceux qui...
Je n'ai jamais vu le blocos.
Non, il n'y en a plus.
Je ne me souviens plus de choses, mais je sais qu'on est, on a été au blocos.
Ah, mais si tu dis que tu as été...
Oui. Et ils nous disent, attention, il y a des punaises, vous savez, parce que c'était vraiment... Et alors, il a commencé... Alors, les premiers qui... J'étais pas chaussée ni rien. Il a commencé à donner... sortir une heure ou deux, vous voyez, ou un dimanche, à quelques-uns, ça a commencé.
Oui, des permissions.
Alors, vous n'avez pas d'argent non plus, parce qu'on ne les payait pas beaucoup.
Hein. Vous étiez, vous gagnez,
au début, les payait
vous gagnez
pas.
Combien, vous, dans la cuisine?
Je sais
pas, t'as pas eu de retraite là-dessus, toi aussi?
Si,
normalement, si on cherchait...
Moi, j'ai les cartes de la caserne de papier de l'organisation TOT.
Ah oui? Ah oui, ah oui.
J'en ai eu besoin pour les dossiers de la Suisse.
Ah ouais.
Puisqu'il avait une pension de...
Non, pas de Suisse, c'est d'Allemagne.
Il a eu la pension. Mais non, mais c'est papier de Suisse pour les Nations Unies. Là, j'ai le dossier où le jour, il a fallu qu'ils me répondent tous. C'est quand, en fait, quand ils ont construit avec les Jewish Juifs. Claim voilà, c'est ça. Et il y a 10 ans, il y a. Oui, non, il y a plus longtemps, ça fait longtemps.
Il y a 15 ans, oui.
Ouais, il y a 15 ans, il a fallu remplir le dossier. Oui. Et donc, il fallait. Il y avait ça. Et après, moi, j'ai demandé à récupérer la nationalité espagnole avec la ligne de Memorial Historica en Espagne, en voulant utiliser le fait qu'il avait été. Il avait dû renoncer à son statut. À son statut comme réfugié politique. Et donc, l'autre jour, quand tu m'as demandé, je t'envoie la photo, et ce que j'ai, par contre, je ne savais pas que c'est ce qui vous intéresse, j'ai les originaux des cartes de l'organisation tout.
Je prends tout.
Avec les dates. Donc, il y a peut-être des sommes, des trucs dessus. Je
sais pas, ils étaient payés, c'est sûr. Ils étaient affiliés à la sécurité sociale.
Oui, parce qu'il a plein de trucs écrits dessus.
Mais lui, il a touché une pension, donc il y a, depuis, il y a 15 ans.
Après, il a eu les Allemands pendant toute sa vie.
Il a eu une pension d'Allemagne, oui.
Oui, mais il y a uniquement 15 ans.
Il a eu son AVC en 80.
En 70, déjà les Allemands. Ils ont...
En 80, je dirais qu'il a été indemnisé en 82.
C'est là, on habitait à Paris.
82-83. Ton Tom a été indemnisé avant.
Je les ai, les papiers aussi.
En 77. J'ai fait les dossiers pour
lui. Il a une pension tous les mois. C'était pendant beaucoup. Toute sa vie.
Oui.
À la fin, c'était
pas mal.
Ils avaient utilisé en vivre. En fonction.
Non. À la fin, je dirais que mon père est mort il y a que 4 ans. Hein. Je crois que c'était 400 euros.
Presque
400 euros. Parce que le
Dutch. C'était un dernier.
À un moment donné, c'était dérisoire. Et à un moment donné, le Mark est parti. Et ça a été vraiment.
C'est augmenté, là, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'Espagnols. Il a fallu faire les démarches. C'est moi qui ai fait les papiers pour tous les Espagnols, mes beaux-frères, qui sont
ici. Ici, sur Bordeaux.
Oui.
Oui.
Et ça a commencé en 57.
Et comme ils savaient pas.
On en parle dans l'expo, effectivement.
Comme ils savaient pas écrire français, j'ai fait les dossiers pour tous. J'étais même obligée de dire, celui-là était témoin, il fallait dire à Saint-Médard, celui-là était témoin, je me suis arrangée pour que les autres soient témoins des autres et tout. Mais ça a duré, ça a duré.
Mais de 57 à 80.
Ça a duré.
Très longtemps. Parce qu'ils faisaient du cas par cas.
Oui.
On a les dossiers, en fait. On me donne les noms, j'ai un collègue qui est allé à Düsseldorf, le tribunal à Düsseldorf traitait cette question pendant 15 ans, mais ils ont oublié qu'ils avaient des archives. Alors mon collègue les a découverts par hasard dans une cave.
Ah oui.
Et tous les dossiers, nom par nom, il y en a 2000 au total, donc 2000 cas précis, donc peut-être qu'on va retrouver
Monsieur Amat.
Par contre, moi ce que j'ai récupéré ici, mais j'en ai besoin, c'est les courriers, j'ai récupéré certains des courriers qu'il y avait avec l'avocate.
Nina Fedenko.
Elle venait à Bordeaux et tout. Mmh. Elle est venue souvent même.
Oui, elle a été à Paris d'abord. Non, avant d'être à Düsseldorf, elle était à Paris. Dans le 14e.
Mais elle est venue à Bordeaux souvent.
Mais ils ont fait du bon boulot. Hein,
mais il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi. Ils n'ont pas pu.
Mais ceux qui n'avaient pas
de. Il y a un type qui m'a écrit du Nord, moi, que je le connais, ça, ni le Pierre, ni d'Adam. Et il m'a téléphoné et puis il m'a. Excusez-moi.
Oui, c'est pas papy qui dit
oui.
Des
du nord, de ben, ou du nord. Ma...
Du nord.
Du nord, du nord de la France.
Du nord de la France.
Du nord.
Ouais. Ben, il vous a appelé
nord,
parce
que. Et puis en me demandant si je voulais, mon mari voulait servir de témoin, comme quoi il avait été. Je me rappelle de tout ce qu'on était là-bas groupé et tout ça, je fais les papiers comme
ils étaient internés, ils étaient travailleurs forcés.
Ils ont été internés, attendus.
Oui, non, je dirais que mon père, il a été indemnisé en 82, 83 peut-être. Mais le Tillette avant.
Ils ont réouvert le procès parce que en 2000, les Allemands ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas indemnisé tout le monde.
Ouais.
Donc ils ont créé un fonds de 10 milliards.
Ah ouais, c'est là-dessus que je crois que j'ai
répondu. Et voilà, et à partir de là, moi j'étais sollicité à l'époque pour faire une expertise si les Espagnols rouges méritaient d'être indemnisés en tant que victimes du nazisme. Évidemment, j'ai dit oui.
Ouais.
Et suite à ça, ils ont fait du cas par cas de nouveau.
Mmh.
Donc j'avais un. De Belfort qui était déporté en Allemagne, qui a subi des expériences médicales, ce qui fait que sa peau a changé et lui il a touché une somme importante, plusieurs milliers d'euros comme indemnisation.
Justement il a été donc moi je l'avais interviewé parce que pour remplir le dossier c'est quand même un gros truc à remplir.
Oui.
C'est pour ça qu'on a l'info qu'on a, ça vient de là, parce que j'ai été obligée de dire raconte, parce que moi mais par contre ça a été considéré qu'il n'avait droit à rien sur cette fois-ci. Mais quand... côté, on avait oui, du brodé, bon. J'avais mis les conditions dans la casernière, il m'avait expliqué ce qu'il mangeait, des choses comme ça, mais...
Oui, mais ça fait rien, même si Niel, puisque Niel, au fond, quand Otto est arrivé, il a fait beaucoup de bien.
Oui, ça s'est arrangé.
Ça s'est arrangé.
Et il a humanisé, disons, la caserne. Oui. Pour ne pas dire le contraire.
Oui.
Et puis, quand il,
la piscine.
Voyez, il vous traitait comme.
Le foot, vous, la piscine.
Bon, je n'ai jamais vu de l'eau.
Ah bon
ben,
j'ai vu de
la photo de Julien, ben, votre... il y a de l'eau.
Oui. T'es sûr qu'il y a de l'eau?
Ah oui, sur la photo à Julien, il y a photo de l'eau.
Oui. Eh bien, il n'y a pas dû rester longtemps, mais après, j'ai toujours vu à sec.
Celle de Julien, il y a
je
de
crois que j'avais pas envie d'aller se baigner.
Si c'est au bord de la piscine, parce que tu m'as dit que c'est au bord de la piscine, Julien.
Ah oui, 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 ça c'est sûr.
Oui. Oui. Mais il faisait, par exemple.
Il... Alors, il a fait des douches, bon. Oui, vous savez, par contre, je ne croyais pas, c'était pas.
Il se vante, hein, devant les tribunaux allemands.
Il a humanisé. Il a fait un service. Comme la sécurité sociale, vous voyez, ceux qui étaient malades pour choses, les malades, il y avait un château, je ne me rappelle plus par là, où il envoyait les gens qui étaient vraiment malades.
Ah, d'accord.
Oui, il y en a un ami qu'on a de Gujan-Mestras.
Et
tout, là, il est vide.
Là, elle est vide.
Mais,
regarde.
Oui, oui, c'est elle. Oh, mais c'est au début.
Il y a de l'eau, là.
Eh bien, alors, c'est une erreur, c'est une petite une cousine.
Voilà. Et donc l'année, je ne sais pas si elle t'a mis l'année, mais là il y a de l'eau.
Classe, il y a de l'eau là, en effet.
Oui. Et bien, mais enfin, pour maman, j'ai toujours vu comme ça.
Je pense qu'on ne mettait pas les maillots et on s'est baigné comme ça. Voilà.
Et bien, c'est celle-là qui lisait les romans avec moi.
Laquelle c'est? Ah ouais.
Dites-moi une chose. Alors, bon, le voilà.
Et voilà.
Alors, il paraît qu'il y a quand même. On a fêté Noël aussi à la Niel, à la caserne Niel.
Oui, mais moi.
Vous n'étiez pas?
Je ne suis pas une réfugiée. Il y avait énormément de réfugiés, de femmes réfugiées, des réfugiés espagnoles.
À la caserne?
Ah oui, toutes.
Qu'est-ce qu'ils faisaient?
Toutes celles qui étaient employées là, c'est des filles qui sont venues à la guerre.
Oui, oui.
Elles avaient la priorité, il y avait autour. Hein. Il y avait toutes. Il y avait une femme, je me rappelle, d'un commandant qui était fusillé. Moi, j'ai travaillé avec la fille du gouverneur de Valladolid qui a été fusillée. Ah. Oui. Et vous voyez, il a pris presque toutes là, les personnes âgées, c'était toutes des filles.
C'est un refuge en quelque sorte. Hein.
Et presque toutes, des Françaises, parce que nous, pour eux, on était des Françaises, on était des Françaises. Il y avait, on était une quinzaine, une vingtaine. Mmh. Mais il y avait aussi une Italienne avec sa fille, mais c'était toutes les autres, c'était même elles, se nous traitaient de Françaises, nous ne croyait pas que ça se passe comme ça.
Oui, parce
et donner en priorité ça. Alors lui, il a humanisé, c'est vrai, et il a commencé à voir, à vendre, il a commencé des vêtements peut-être ou ça. Alors il donnait permission, il a commencé à leur donner des permissions parce qu'il fallait qu'ils rentrent à l'époque. Il y a quelques-uns hein, pour sortir. Bon, celui qui sortait, qui avait de l'argent, achetait des chaussures. Et puis après, il est prêté à l'autre pour sortir.
En ville.
Pour sortir.
Ça, mais il y en a pas mal qui se sont taillés aussi.
Au
non
début.
Il y en a pas mal, non?
Mais où aller? Il fallait aller où aller? Et c'est ça. Où aller? C'est pour ça qu'ils étaient dedans, parce qu'ils avaient où dormir.
Quand on connaît personne sur Bordeaux.
Et bien, alors après, avec la, quand il a commencé, quand on commence à sortir, on a commencé à les connaître, nous. On a lavé le linge, non, vous savez, ils ont commencé à aller dans des familles. Parce que là, autour, il a laissé vraiment. Là, il sortait un peu le soir, il faisait. Celui qui n'y voit pas, mais là, il sortait. Mais en dernier, déjà.
Ce que m'a raconté un monsieur, alors effectivement, il venait trop tard, c'était fermé, le portail mais était fermé.
Mais,
et l'Allemand, mais, bon, il a dit
oui, mais attendez, le portail était fermé. Mais vous inquiétez pas, ils avaient cassé des grilles par derrière.
Il y avait des trous aussi.
Parce que pour la libération, figurez-vous qu'on était, 5 ou 6 du quartier. Là, on travaillait, on prenait à l'avenue Thiers, là, il y avait une passerelle.
Et elle est toujours.
Non, la rotonde, elle existe.
Il y avait une petite passerelle qui allait jusqu'à la taverne.
Entre là, c'est la poste de la Bastide sur l'avenue
Thiers.
Il y a un restaurant là qui fait un coin.
Oui.
Et là, au bout de ce restaurant, il y avait
une passerelle. Et qui allait, et qui allait jusqu'à la caserne.
Moi, je l'ai connue, moi.
Et après, les chevaux en fer.
C'est un chemin de fer qui passait au-dessus.
Alors, il y avait un kiosque à journaux, là.
Oui.
Et une femme qui nous avait vus tous les jours, qui nous voyait ses filles de 20 ans, là, on allait travailler. Un matin, elle nous voit arriver, puis elle dit, où vous allez, les filles? Et puis, je vais travailler. Et mes pauvres petites, ils sont partis cette nuit. Mais c'est pas vrai. Si, ils sont partis cette nuit. Mais on n'avait rien vu. Mais c'est pas vrai. Et bien, il y en a une qui me dit, oh, moi, mon fiancé, il faut qu'il mange. Fréquenté, hein. Et elle dit, il faut qu'il mange. Nous, on va aller parler des patates. Oh, elle me dit, vous n'allez pas rentrer. En effet, on arrive, et puis il y avait la préfecture, les gars de la préfecture. Et alors, ils ont commencé à pas vouloir. Mais lui, il faut qu'on rentre. Il me dit, vous savez, bébé, nous, on fait les pommes de terre. Alors, ils ont commencé à hésiter, et puis après, ils ont dit, oui, c'est vrai, il faut qu'ils mangent, les gars. Parce que les Espagnols, ils sont restés
là. Ils sont restés là, alors que les Allemands sont partis.
Alors, il y a un Espagnol qui vient de dire,
donc, vous avez fait des patates.
Alors, il dit, mais oui, mais s'ils nous enferment dedans. Il y a un Espagnol qui passe, il dit, vous en faites pas, un Espagnol, là, vous en faites pas, et vous allez sortir, et si vous voulez, tout est ouvert derrière.
Donc la préfecture est arrivée, mais c'était aussi pour garder.
Il y avait des gars de la préfecture.
C'était pour garder.
Oui, pour garder.
Donc une fois les Allemands partis, c'est la préfecture qui a pris la garde des Espagnols.
Mais il y a des... J'ai vu arriver un jour une jeep,
Jeep, oui.
Des gars de la Dordogne qui sont arrivés, et qui ont dit, oh, le lendemain, ouvrez-moi. Ouvrez-moi ces portails. Ils ont fait ouvrir les grilles de la caserne. Il a dit, maintenant, ils sont libres, ils sortent quand ils veulent. Mais les autres disaient, on peut sortir au moment, mais ceux qui n'avaient personne, vous voyez. Mais il a dit, de toute façon, hein, vous inquiétez pas si ferment les grilles, parce qu'il y a un moment, il est qu'on cavale.
Oui, oui.
Alors, ils allaient voir des généraux, là.
Oui.
Et ils en ont piqué en dernier. Je me rappelle un jour, il y en avait un qui était partout au magasin des généraux. Et puis, il avait été chercher des... Il croyait avoir fait d'affaires, il avait fauché des brodequins. Il ne s'était pas rendu compte. Il avait pris que d'un pied le lot qu'il avait pris aller dans la nuit. Et une autre fois, ils avaient tous avec des imperméables beiges. Tout le monde avait des imperméables beiges.
C'est classe.
Oui, ben, ils se démerdaient, les pauvres. Oui. Il fallait qu'ils se...
Mais oui, c'est des
et après, là, ils se sont... Et l'autre, Otto fermait les yeux.
Mais Otto, il s'est barré aussi,
oui. Oui, mais Otto,
il est parti avec les Allemands.
Il est parti avec les Allemands.
Je ne sais pas s'il est parti avec les Allemands, dis donc.
Tu l'as plus revu après.
Mais je l'ai plus revu.
La vie, alors,
mais puis, alors, celui qui travaillait dans le chantier, derrière la cuisine, là, on l'appelait Willy, on aurait dit un Américain, le chef allemand. Il s'en foutait éperdument, celui-là. Et les gens ont travaillé, il avait le chapeau, lui, au lieu d'être comme les Allemands, tu vois. Et bien, celui-là. Ils ont commencé à faire le trafic des cartes de paix, vous savez, falsifier, se débrouiller.
Il n'y en a pas énormément de trafic.
Eh bien, c'est lui qui camouflait les trucs. Et les flics sont venus un jour pour les arrêter, il ne les a pas laissés rentrer. Il a dit, si, vous ne rentrez pas chez l'organisation. Il ne les a pas laissés rentrer. Ouais. Alors, je vous dirais qu'il y a eu de tout. Il y en a qui ont été bien. Ils sont bien tombés, mais il y en a qui ont
beaucoup. Il y en a mille qui se sont évadés.
Mon beau-frère, il travaillait avec ceux qui descendaient au fond.
De sous la cloche.
De la cloche.
Ça c'était du dur. C'était une punition, ça, en fait.
Et il y en a qui sont morts. Hein. Un jour, la cloche a eu la même chose, ils ne sont pas remontés.
On a découvert une cimetière, en fait, avec Carmela. Oui. 68.
Combien il y en avait qui étaient blessés d'accidentellement.
On connaît 68.
Ils n'avaient personne, personne ne les connaissait, alors on ne savait pas ce qu'ils faisaient. On ne savait pas ce qui se passait, nous.
Un cimetière.
Alors, donc, Barcelone nous a envoyé des photos des enterrements. Donc, on voit un prêtre, on suppose que ce sont des Espagnols, on voit des cercueils. Il y a trois maisons derrière, assez typiques comme maison. Donc on a cherché. Moi j'étais parti faire le tour de la Bastide, mais c'était pas là. En fait, c'est les cimetières des Talences. On retrouve exactement les trois maisons, la murette, et donc forcément les tombes.
Ouais.
Sauf qu'elles ont été déplacées. Et la mairie des Talences, ben, on attend qu'elles nous répondent. quand même, il y a quand même un registre pour le, même si le comment ça s'appelle, quand on n'a plus payé.
Oui, quand, la concession.
La concession est terminée.
Il y a quand même le registre.
Il y a quand même une trace. Donc on va, j'espère, pouvoir récupérer en quelque sorte l'emplacement de ces, au moins savoir qui étaient ces 68 et où, et qu'est-ce qu'ils sont devenus.
Ouais.
Parce que 68, c'est sûr, il y avait un mémorial, il y avait des plaques.
Ah, mais ça a été fait après. Là.
Ça a été fait bien après.
Ouais. Oui, mais ça, c'est sûr qu'il y en a qui sont morts à la cloche.
Il y en a qui
sont morts. Oui, il y en a qui sont morts et en travaillant et tout.
Après, il y a un monsieur qui m'a raconté aussi qu'à la caserne, à la base, bon, ben...
Mais nous, on ne voyait pas ce qui se passait à la
base. Oui, vous étiez en cuisine. Oui, donc
ça ne risquait pas qu'on se traîne mal.
Et c'est tout ça, et c'est la base. Papa, il n'en a jamais parlé.
Mais oui.
Et le Tillette et le mon oncle, jamais.
Et moi, je ne l'avais jamais vu jusqu'au jour du bombardement.
Jamais. Et pourtant, ils ont fait l'électricité, ils ont bossé
quand même, toi, deux ans.
Ils ont passé les câbles, donc ils y étaient. Enfin,
c'était chaud de passer les câbles, parce qu'ils m'avaient expliqué, là, avec l'eau et tout le bazar. Hein.
Mais oui, c'était... T'as entendu Edouard parler?
Non plus.
Et pourtant, il était dans la cloche, lui.
Il était dans la cloche?
Mon beau-frère, oui. Je suis mariée avec ma soeur
aînée. Vous savez ce que c'est, la cloche? C'est...
C'était, de... c'était comme une ascenseur.
C'est une espèce de cloche. Il y a un tuyau. J'ai déjà essayé. Ça, c'est épouvantable. J'ai essayé avec un bidon en plastique dans un lac. En fait, on a la cloche et l'autre qui pompe, ce qui fait que l'oxygène qu'on respire...
Il travaille en bas.
Il faut le renouveler en permanence.
Pour creuser, pour la base.
Ah, mais à la base marine, si vous parlez de miel, c'est pour ça que je comprends.
Ah non, à la base
sous-marine. Non, non, à la base sous-marine, dans le bassin, en fait.
Ouais, mais on ne travaillait pas la miel.
Papy, il m'avait expliqué des trucs comme ça, là, pour passer l'eau avec les câbles, des trucs
bizarres. Oui, mais lui,
il n'est pas rentré dans l'eau, lui, mais il passait les câbles.
Oui, oui, oui.
Comment il faisait? Et tonton Edouard, oui, il avait le...
Alors là, quand il travaillait, je te dirais rien. Il n'y avait rien pour se la vérité, il n'y avait rien
au début. C'est très axé. Non, 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 c'était juste pour... Alors, imaginez que je me mets ça sur la tête et j'ai un tuyau là et il y a un autre qui pompe.
Ah, mais moi qui suis claustro, justement.
C'est extrêmement fatigant. Puis, voilà, c'était... J'ai lu quelque part qu'il disait, voilà, s'ils sont passage, c'est la cloche.
Ouais. Ils ont été malheureux.
J'imagine.
Ils ont été malheureux. Moi, la première fois que j'ai vu, là, j'étais... Je ne revenais pas, ces hommes m'ont
été habillés. Mais dites-moi donc, quand la préfecture, quand les Allemands sont partis, vous travaillez encore à la casernielle, vous êtes resté. Et ils sont restés combien de temps après la libération?
Alors, et ils ont gardé, bon, qu'il est espagnol.
Oui.
Ah, ils n'en voulaient plus. Ils ont dit qu'ils se démerdent, qu'ils s'en
aillent. Mais vous avez dit qu'il y a un mec de Dordogne
qui est venu. Oui, il est obligé de garder ceux qui restaient.
Oui.
Mais enfin, ils n'ont pas gardé le personnel. Nous, on est restés 3 ou 4 jours. Et après, ils ont gardé que 4 ou 5 filles.
D'accord.
Pour qu'ils finissent. Mais ils leur ont dit, débrouillez-vous. Partez, quoi. Et il a fallu qu'ils se débrouillent.
Eux, ils sont restés. Certaines sont restées à la caserne.
Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait, moi, après.
Mais non, mais les Espagnols, est-ce qu'il y en a qui sont restés à la caserne?
Eh bien, ils sont restés quelques jours, mais après, ils leur ont dit qu'il fallait qu'ils partent, quoi. Ah, il a fallu qu'ils se débrouillent, chacun.
Parce que l'armée est revenue, en
fait. Tonton Edouard a été habité, il a trouvé un logement, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas d'argent non plus, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et le peu qu'ils avaient, les pauvres, ils ont...
Il fallait trouver des filles, alors.
Et
il fallait trouver des filles pour se marier.
Et puis, tout, c'est tout varié des réfugiés. C'est obligé.
Oui.
Et on parlait la langue, quand ils ont été libres, on avait encore davantage, on était attirés quand même, vous savez, l'espagnol, on avait tout dans le fond.
Et là, vous comprenez
un peu.
Donc vous parlez l'espagnol, vous?
Oui, mes parents.
Mes parents parlaient. Elle est venue, maman vous a pas expliqué? En fait, elle est de parents espagnols, mais ses parents sont. Elle est née en France, mais ses sœurs aînées sont nées en Espagne.
D'accord.
Moi, je suis née ici.
Vous avez la double nationalité.
Donc, elle a choisi la française quand elle est...
C'est-à-dire, là aussi, mon père n'avait jamais voulu naturaliser.
Il y en a beaucoup. Hein.
Et puis, quand je me suis mariée, il n'a jamais compris. Quand j'étais fait publier mes bans, pour me marier avec mon mari, là, elle me dit, la secrétaire, mais je ne comprends pas. Elle me dit, pourquoi votre mari est espagnol, vous voulez être français? Elle me dit, justement, j'ai droit à 21 ans. C'était à 21 ans à l'époque, l'option, quoi.
Oui.
J'avais le droit.
Oui.
Et je le faisais parce que mon mari était un réfugié, on ne sait jamais. Mon père n'était pas trop comptable.
Oui, mais c'est, je comprends. Ma femme, elle est française, et moi, je suis allemand, ça peut être bien.
Ça peut être bien.
Ça peut servir un jour, on ne sait jamais.
Mon père ne voulait pas, c'est pas bien, il voulait.
Ah, c'est pas pareil. Mais quand alors, on arrive tard dans un pays étranger, bon.
Moi, je suis arrivé à 20 ans, donc je ne peux pas prétendre d'être français. Je n'ai pas fait l'école ici. Ça serait grotesque de prendre la nationalité française.
Alors, ça allait un peu mal. Quand je me suis mariée, à un moment donné, ils disaient que tout ce qu'il n'y avait pas, vous savez, il y a commencé à avoir des complications. Encore, je me suis mariée pour plus de sécurité. De toute façon, je dis, si j'ai des enfants, ils sont français.
Oui, voilà.
On va pour rester là. Alors, moi.
Vous avez la double, vous ?
Eh bien, moi, non, je suis française, mais...
Non, en fait, t'es espagnole, c'est-à-dire que...
Voilà.
Pour des raisons politiques, j'ai voulu donc récupérer la nationalité espagnole, et donc quand j'ai fait les... Mais sans que elle... parce que, en fait, quand elle est née, mon grand-père était pas encore naturalisé français. Et donc, par rapport à l'Espagne, quand j'ai voulu la récupérer en utilisant le fait que j'étais petite fille d'un exilé à cause de la guerre d'Espagne sous le gouvernement Zapatero, en fait, on s'est rendu compte que j'avais même pas besoin de passer par ça parce que, en fait, elle est née
en Espagne.
Comme elle est née ici en France.
C'est le droit du sol ou le droit du sang ?
Non, le droit du sang.
C'est-à-dire comme elle est née de parents, exactement. Donc, pour pas l'embêter, parce qu'elle se sent pas du tout espagnole, elle l'a pas fait. Donc, moi, j'ai récupéré.
C'est ce que j'ai dit à Igarmé, là, moi, ils font des choses bien, mais ils me fatiguent.
Donc, je